Honoré de Balzac, une fille d'Ève. À Madame la Comtesse Bolognini, Nevi Mercati. Si vous vous souvenez, Madame, du plaisir que votre conversation procurait à un voyageur en lui rappelant Paris à Milan, vous ne vous étonnerez pas de le voir vous témoignant sa reconnaissance pour tant de bonnes soirées passées auprès de vous, en apportant une de ses œuvres à vos pieds et vous priant de la protéger de votre nom, comme autrefois ce nom protégea plusieurs contes de nos vieux auteurs chers aux Milanais. Vous avez une Eugénie, déjà belle, dont le spirituel sourire annonce qu'elle tiendra de vous les dons les plus précieux de la femme, et qui certes aura dans son enfance tous les bonheurs qu'une triste mère refusait à l'Eugénie mise en scène dans cette œuvre. Vous voyez que, si les Français sont taxés de légèreté et d'oubli, je suis italien par la constance et par le souvenir. En écrivant le nom d'Eugénie, ma pensée m'a souvent reporté dans ce frais salon en stuc et dans ce petit jardin au Vicolo dei Cappuccini, témoin des rires de cette chère enfant, de nos querelles, de nos récits. Vous avez quitté le Corso pour les Tre Monasteri. Je ne sais point comment vous y êtes, et je suis obligé de vous voir, non plus au milieu des jolies choses qui sans doute vous y entourent, mais comme une de ces belles figures, dues à Carlo Dolci, Raphaël, Titien, Allori, et qui semblent abstraites tant elles sont loin de nous. Si ce livre peut sauter par-dessus les Alpes, il vous prouvera donc la vive reconnaissance et l'amitié respectueuse de votre humble serviteur de Balzac. Dans un des plus beaux hôtels de la rue Neuve des Mathurins, à 11h30 du soir, deux femmes étaient assises devant la cheminée d'un boudoir tendu de ce velours bleu à reflets tendres et chatoyants que l'industrie française n'a su fabriquer que dans ces dernières années. Aux portes, aux croisées, un artiste avait drapé de moelleux rideaux en cachemire d'un bleu pareil à celui de la tenture. Une lampe d'argent, ornée de turquoise et suspendue par trois chaînes d'un beau travail, descend d'une jolie rosace placée au milieu du plafond. Le système de la décoration est poursuivi dans les plus petits détails et jusque dans ce plafond en soie bleue, étoilé de cachemire blanc, dont les longues bandes plissées retombent à d'égales distances sur la tenture agrafée par des faits de perles. Les pieds rencontrent le chaud tissu d'un tapis beige, épais comme un gazon et à fond gris de lin semé de bouquets bleus. Le mobilier, sculpté en plein bois de palissandre sur les plus beaux modèles du vieux temps, rehausse par ses tons riches la fadeur de cet ensemble un peu trop flou, dirait un peintre. Le dos des chaises et des fauteuils offre à l'œil des pages menues en belle étoffe de soie blanche, brochées de fleurs bleues et largement encadrées par des feuillages finement découpés. De chaque côté de la croisée, deux étagères montrent leurs mille bagatelles précieuses, les fleurs des arts mécaniques écloses au feu de la pensée. Sur la cheminée en turquin, les porcelaines les plus folles du vieux Saxe, ces bergers qui vont à des noces éternelles en tenant de délicats bouquets à la main, espèces de chinoiseries allemandes, entourent une pendule en platine niellée d'arabesques. Au-dessus brillent les tailles côtelées d'une glace de Venise, encadrée d'un ébène plein de figures en relief, et venues de quelques vieilles résidences royales. Deux jardinières étalaient alors le luxe malade des serres, de pâles et vitrines fleurs, les perles de la botanique. Dans ce boudoir froid, rangé, propre comme s'il eût été à vendre, vous n'eussiez pas trouvé ce malin et capricieux désordre qui révèle le bonheur. Là, tout était alors en harmonie, car les deux femmes pleuraient. Tout y paraissait souffrant. Le nom du propriétaire, Ferdinand du Tillet, un des plus riches banquiers de Paris, justifie le luxe effréné qui orne l'hôtel et auquel ce boudoir peut servir de programme. Quoique sans famille, quoique parvenu Dieu sait comment, Du Tillet avait épousé en 1831 la dernière fille du comte de Granville, l'un des plus célèbres noms de la magistrature française, et devenu pair de France après la Révolution de Juillet. Ce mariage d'ambition fut acheté par la quittance du contrat d'une dot non touchée aussi considérable que celle de la sœur aînée mariée au comte Félix de Vandenesse. De leur côté, les Granville avaient jadis obtenu cette alliance avec les Vandenesse par l'énormité de la dot. Ainsi, la banque avait réparé la brèche faite à la magistrature par la noblesse. Si le comte de Vandenesse s'était pu voir, à 3 ans de distance, beau-frère d'un sieur Ferdinand dit du Tillet, il n'eût peut-être pas épousé sa femme, mais quel homme aurait, vers la fin de 1828, prévu les étranges bouleversements que 1830 devait apporter dans l'état politique, dans les fortunes et dans la morale de la France? Il eût passé pour fou, celui qui aurait dit au comte Félix de Vandenesse que, dans ce chassé-croisé, il perdrait sa couronne de père et qu'elle se retrouverait sur la tête de son beau-père. Ramassé sur une de ces chaises basses appelées chauffeuses, dans la pose d'une femme attentive, Madame du Tillet pressait sur sa poitrine avec une tendresse maternelle et baisait parfois la main de sa sœur, Madame Félix de Vandenesse. Dans le monde, on joignait au nom de famille le nom de baptême pour distinguer la comtesse de sa belle-mère, la marquise, femme de l'ancien ambassadeur Charles de Vandenesse, qui avait épousé la riche veuve du comte de Kergerouët, une demoiselle de Fontaine. À demi renversée sur une causeuse, un mouchoir dans l'autre main, la respiration embarrassée par des sanglots réprimés, les yeux mouillés, la comtesse venait de faire de ses confidences qui ne se font que de sœur à sœur quand deux sœurs s'aiment. Et ces deux sœurs s'aimaient tendrement. Nous vivons dans un temps où deux sœurs, si bizarrement mariées, peuvent si bien ne pas s'aimer qu'un historien est tenu de rapporter les causes de cette tendresse, conservée sans accroc ni tache, au milieu des dédains de leurs maris l'un pour l'autre et des désunions sociales. Un rapide aperçu de leur enfance expliquera leur situation respective. Élevée dans un sombre hôtel du Marais par une femme dévote et d'une intelligence étroite qui pénétrait de ses devoirs, la phrase classique, avait accompli la première tâche d'une mère envers ses filles, Marie-Angélique et Marie-Eugénie, atteignirent le moment de leur mariage, la première à 20 ans, la seconde à 17, sans jamais être sortie de la zone domestique où planait le regard maternel. Jusqu'alors, elles n'étaient allées à aucun spectacle, les églises de Paris furent leur théâtre. Enfin, leur éducation avait été aussi rigoureuse à l'hôtel de leur mère qu'elle aurait pu l'être dans un cloître. Depuis l'âge de raison, elles avaient toujours couché dans une chambre contiguë à celle de la comtesse de Granville et dont la porte restait ouverte pendant la nuit. Le temps que ne prenaient pas les devoirs religieux ou les études indispensables à des filles bien nées et les soins de leur personne se passait en travaux à l'aiguille faites pour les pauvres, en promenades accomplies dans le genre de celles que se permettent les Anglais le dimanche en disant « N'allons pas si vite, nous aurions l'air de nous amuser. » Leur instruction ne dépassa point les limites imposées par des confesseurs élus parmi les ecclésiastiques les moins tolérants et les plus jansénistes. Jamais filles ne furent livrées à des maris ni plus purs ni plus vierges. Leur mère semblait avoir vu dans ce point, assez essentiel d'ailleurs, l'accomplissement de tous ses devoirs envers le ciel et les hommes. Ces deux pauvres créatures n'avaient, avant leur mariage, ni lu des romans, ni dessiné autre chose que des figures dont l'anatomie eût paru le chef-d'œuvre de l'impossible à Cuvier et gravé de manière à féminiser l'Hercule Farnèse lui-même. Une vieille fille leur apprit le dessin. Un respectable prêtre leur enseigna la grammaire, la langue française, l'histoire, la géographie, et le peu d'arithmétique nécessaire aux femmes. Leur lecture, choisie dans les livres autorisés, comme les lettres édifiantes et les leçons de littérature de Noël, se faisait le soir à haute voix, mais en compagnie du directeur de leur mère, car ils pouvaient s'y rencontrer des passages qui, sans de sages commentaires, eussent éveillé leur imagination. Le Télémaque de Fénelon parut dangereux. La comtesse de Granville aimait assez ses filles pour en vouloir faire des anges à la façon de Marie à la coque, mais ses filles auraient préféré une mère moins vertueuse et plus aimable. Cette éducation porta ses fruits. Imposée comme un joug et présentée sous des formes austères, la religion lassa de ses pratiques ces jeunes cœurs innocents, traités comme s'ils eussent été criminels. Elle y comprima les sentiments, et tout en y jetant de profondes racines, elle ne fut pas aimée. Les deux maris devaient ou devenir imbéciles, ou souhaiter leur indépendance. Elles souhaitèrent de se marier, dès qu'elles purent entrevoir le monde et comparer quelques idées. Mais leur grâce touchante et leur valeur, elles l'ignorèrent. Elles ignoraient leur propre candeur. Comment auraient-elles su la vie? Elles étaient sans armes contre le malheur, comme sans expérience pour apprécier le bonheur. Elles ne tirèrent d'autre consolation que d'elles-mêmes au fond de cette geôle maternelle. Leur douce confidence, le soir à voix basse, ou les quelques phrases échangées quand leur mère les quittait pour un moment, contint parfois plus d'idées que les mots n'en pouvaient exprimer. Souvent, un regard dérobé à tous les yeux et par lequel elles se communiquaient leurs émotions fut comme un poème d'amère mélancolie. La vue du ciel sans nuages, le parfum des fleurs, le tour du jardin fait bras dessus, bras dessous, leur offrir des plaisirs inouïs. L'achèvement d'un ouvrage de broderie leur causait d'innocentes joies. La société de leur mère, loin de présenter quelques ressources à leur cœur ou de stimuler leur esprit, ne pouvait qu'assombrir leurs idées et contrister leurs sentiments, car elles se composaient de vieilles femmes droites, sèches, sans grâce, dont la conversation roulait sur les différences qui distinguaient les prédicateurs ou les directeurs de conscience, sur leurs petites indispositions et sur les événements religieux les plus imperceptibles pour la quotidienne ou pour l'ami de la religion. Quant aux hommes, ils eussent éteint les flambeaux de l'amour, tant leur figure était froide et tristement résignée. Ils avaient tous cet âge où l'homme est maussa des chagrins, où sa sensibilité ne s'exerce plus qu'à table et ne s'attache qu'aux choses qui concernent le bien-être. L'égoïsme religieux avait desséché ces cœurs voués au devoir et retranchés derrière la pratique. De silencieuses séances de jeu les occupaient presque toute la soirée. Les deux petites, mises comme au banc de ce Sanhédrin qui maintenait la sévérité maternelle, se surprenaient à haïr ces désolants personnages aux yeux creux, aux figures renfrognées. Sur les ténèbres de cette vie se dessina vigoureusement une seule figure d'homme, celle d'un maître de musique. Les confesseurs avaient décidé que la musique était un art chrétien, né dans l'Église catholique et développé par elle. On permit donc aux deux petites filles d'apprendre la musique. Une demoiselle à lunettes, qui montrait le solfège et le piano dans un couvent voisin, les fatigua d'exercice. Mais quand l'aînée de ces filles atteignit 10 ans, le comte de Granville démontra la nécessité de prendre un maître. Madame de Granville donna toute la valeur d'une conjugale obéissance à cette concession nécessaire. Il est dans l'esprit des dévotes de se faire un mérite des devoirs accomplis. Le maître fut un Allemand, catholique, un de ces hommes nés vieux qui auront toujours 50 ans, même à 80. Sa figure creusée, ridée, brune, conservait quelque chose d'enfantin et de naïf dans ses fonds noirs. Le bleu de l'innocence animait ses yeux, et le gai sourire du printemps habitait ses lèvres. Ses vieux cheveux gris, arrangés naturellement comme ceux de Jésus-Christ, ajoutaient à son air extatique je ne sais quoi de solennel qui trompait sur son caractère. Il eût fait une sottise avec la plus exemplaire gravité. Ses habits étaient une enveloppe nécessaire à laquelle il ne prêtait aucune attention, car ses yeux allaient trop haut dans les nues pour jamais se commettre avec les matérialités. Aussi ce grand artiste inconnu tenait-il à la classe aimable des oublieurs qui donnent leur temps et leur âme à autrui comme ils laissent leurs gants sur toutes les tables et leurs parapluies à toutes les portes. Ses mains étaient celles qui sont sales après avoir été lavées. Enfin, son vieux corps, mal assis sur ses vieilles chambres nouées et qui démontrait jusqu'à quel point l'homme peut en faire l'accessoire de son âme, appartenait ces étranges créations qui n'ont été bien dépeintes que par un Allemand, par Hoffmann, le poète de ce qui n'a pas l'air d'exister et qui néanmoins a vie. Tel était Schmucke, ancien maître de chapelle du margrave d'Ansbach, savant qui passa par un conseil de dévotion et à qui l'on demanda s'il faisait maigre. Le maître eut envie de répondre « Regardez-moi, mais comment badiner avec des dévotes et des directeurs jansénistes ?» Ce vieillard apocryphe tint tant de place dans la vie des deux maris, elles prirent tant d'amitié pour ce candide et grand artiste qui se contentait de comprendre l'art, qu'après leur mariage, chacune lui constitua 300 francs de rente viagère, somme qui suffisait pour son logement, sa bière, sa pipe et ses vêtements. 600 francs de rente et ses leçons lui firent un éden. Schmucken s'était senti le courage de gonfler sa misère et ses vœux qu'à ses deux adorables jeunes filles, à ses cœurs fleuris sous la neige des rigueurs maternelles, et sous la glace de la dévotion. Ce fait explique tout Schmucke et l'enfance des deux maris. Personne ne sut, plus tard, quel abbé, quelle vieille dévote avait découvert cet Allemand égaré dans Paris. Dès que les mères de famille apprirent que la comtesse de Granville avait trouvé pour ses filles un maître de musique, toutes demandèrent son nom et son adresse. Schmucke eut 30 maisons dans le Marais. Son succès tardif se manifesta par des souliers à boucles d'acier bronzé, fourrés de semelles en crin et par du linge plus souvent renouvelé. Sa gaieté d'ingénu, longtemps comprimée par une noble et décente misère, reparut. Il laissa échapper de petites phrases spirituelles comme « Mesdemoiselles, les chats ont mangé la crotte dans Paris cette nuit. » Quand pendant la nuit, la gelée avait séché les rues, boueuses la veille, mais il les disait en patois germanico-gallique. « Moutemisel, j'aonde manger la grossième tamperie, une mouille. » Satisfait d'apporter à ces deux anges cette espèce de vergis mein nicht, choisi parmi les fleurs de son esprit, il prenait en l'offrant un air fin et spirituel qui désarmait la raillerie. Il était si heureux de faire éclore le rire sur les lèvres de ces deux écolières dont la malheureuse vie avait été pénétrée par lui qu'il se fût rendu ridicule exprès s'il ne l'eût pas été naturellement. Mais son cœur eut renouvelé les vulgarités les plus populaires. Il eut, suivant une belle expression de feu Saint-Martin, doré de la houe avec son céleste sourire. D'après une des plus nobles idées de l'éducation religieuse, les deux maris reconduisaient leur maître avec respect jusqu'à la porte de l'appartement. Là, les deux pauvres filles lui disaient quelques douces phrases, heureuses de rendre cet homme heureux. Elles ne pouvaient se montrer femmes que pour lui. Jusqu'à leur mariage, la musique devint donc pour elle une autre vie dans la vie, De même que le paysan russe prend, dit-on, ses rêves pour la réalité, sa vie pour un mauvais sommeil. Dans leur désir de se défendre contre les petitesses qui menaçaient de les envahir, contre les dévorantes idées ascétiques, elles se jetèrent dans les difficultés de l'art musical à s'y briser. La mélodie, l'harmonie, la composition, ces trois filles du ciel dont le cœur fut mené par ce vieux faune catholique ivre de musique, les récompensèrent de leurs travaux et leur firent un rempart de leur danse aérienne. Mozart, Beethoven, Haydn, Paciello, Cimarosa, Hummel et les génies secondaires développèrent en elles mille sentiments qui ne dépassèrent pas la chaste enceinte de leur cœur voilé, mais qui pénétrèrent dans la création où elles volèrent à toutes ailes. Quand elles avaient exécuté quelques morceaux en atteignant à la perfection, elles se serraient les mains et s'embrassaient en proie à une vive extase. Leur vieux maître les appelait ses Saintes Céciles. Les deux maris n'allèrent au bal qu'à l'âge de 16 ans, et 4 fois seulement par année, dans quelques maisons choisies. Elles ne quittaient les côtés de leur mère que munies d'instructions sur la conduite à suivre avec leurs danseurs, et si sévères qu'elles ne pouvaient répondre que oui ou non à leur partenaire. L'œil de la comtesse n'abandonnait point ses filles et semblait deviner les paroles au seul mouvement des lèvres. Les pauvres petites avaient des toilettes de bal irréprochables, des robes de mousseline montant jusqu'au menton, avec une infinité de ruches excessivement fournies et des manches longues. En tenant leur grâce comprimée et leur beauté voilée, cette toilette leur donnait une vague ressemblance avec les gaines égyptiennes. Néanmoins, il sortait de ces blocs de coton deux figures délicieuses de mélancolie. Elles enrageaient en se voyant l'objet d'une pitié douce. Quelle est la femme, si candide qu'elle soit, qui ne souhaite faire envie? Aucune idée dangereuse, malsaine ou seulement équivoque ne souilla donc la pulpe blanche de leur cerveau. Leur cœur était pur, leurs mains étaient horriblement rouges, elles crevaient de santé. Ève ne sortit pas plus innocente des mains de Dieu que ses deux filles ne le furent en sortant du logis maternel pour aller à la mairie et à l'église, avec la simple mais épouvantable recommandation d'obéir en toutes choses à des hommes auprès desquels elle devait dormir ou veiller pendant la nuit. À leur sens, elle ne pouvait trouver plus mal dans la maison étrangère où elle serait déportée que dans le couvent maternel. Pourquoi le père de ces deux filles, le comte de Granville, ce grand savant et intègre magistrat, quoique parfois entraîné par la politique, ne protégeait-il pas ces deux petites créatures contre cet écrasant despotisme? Hélas, par une mémorable transaction convenue après 6 ans de mariage, les époux vivaient séparés dans leur propre maison. Le père s'était réservé l'éducation de ses fils en laissant à sa femme l'éducation des filles. Il vit beaucoup moins de dangers pour des femmes que pour des hommes à l'application de ce système oppresseur. Les deux maris, destinés à subir quelque tyrannie, celle de l'amour ou celle du mariage, y perdaient moins que des garçons chez qui l'intelligence devait rester libre et dont les qualités se seraient détériorées sous la compression violente des idées religieuses poussées à toutes leurs conséquences. De 4 victimes, le comte en avait sauvé 2. La comtesse regardait ses 2 fils, l'un voué à la magistrature assise et l'autre à la magistrature amovible, comme trop mal élevés pour leur permettre la moindre intimité avec leur sœur. Les communications étaient sévèrement gardées entre ces pauvres enfants. D'ailleurs, quand le comte faisait sortir ses fils du collège, il se gardait bien de les tenir au logis. Ces 2 garçons y venaient déjeuner avec leur mère et leur sœur, Puis le magistrat les amusait par quelques parties du dehors. Le restaurateur, les théâtres, les musées, la campagne dans la saison défrayaient leur plaisir. Excepté les jours solennels dans la vie de famille, comme la fête de la comtesse ou celle du père, les premiers jours de l'an, ceux de distribution des prix, où les deux garçons demeuraient au logis paternel et y couchaient, fort gênés, n'osant pas embrasser leur sœur, surveillée par la comtesse, qui ne laissait pas un instant ensemble, les deux pauvres filles virent si rarement leur frère qu'il ne put y avoir aucun lien entre eux. Ces jours-là, les interrogations « Où est Angélique ? Ah, que fait Eugénie ? Où sont mes enfants ?» s'entendaient à tout propos. Lorsqu'il était question de ses deux fils, la comtesse levait au ciel ses yeux froids et macérés, comme pour demander pardon à Dieu de ne pas les avoir arrachés à l'impiété. Ses exclamations, ses réticences à leur égard, équivalaient au plus lamentable verset de Jérémie et trompaient les deux sœurs, qui croyaient leur frère perverti et à jamais perdu. Quand ses fils eurent 18 ans, le comte leur donna 2 chambres dans son appartement et leur fit faire leurs droits en les plaçant sous la surveillance d'un avocat, son secrétaire, chargé de les initier au secret de leur avenir. Les deux maris ne connurent donc la fraternité qu'abstraitement. À l'époque des mariages de leurs sœurs, l'un, avocat général à une cour éloignée, l'autre à son début en province, fut retenu chaque fois par un grave procès. Dans beaucoup de familles, la vie intérieure, qu'on pourrait imaginer intime, unie, cohérente, se passe ainsi. Les frères sont au loin, occupés à leur fortune, à leur avancement, pris par le service du pays. Les sœurs sont enveloppées dans un tourbillon d'intérêts de famille étrangère à la leur. Tous les membres vivent alors dans la désunion, dans l'oubli les uns des autres, reliés seulement par les faibles liens du souvenir, jusqu'au moment où l'orgueil les rappelle, où l'intérêt les rassemble et quelquefois les sépare de cœur, comme ils l'ont été de fait. Une famille vivant unie de corps et d'esprit est une rare exception. La loi moderne, en multipliant famille par la famille, a créé le plus horrible de tous les maux, l'individualisme. Au milieu de la profonde solitude où s'écoula leur jeunesse, Angélique et Eugénie virent rarement leur père, qui d'ailleurs apportait dans le grand appartement habité par sa femme au rez-de-chaussée de l'hôtel une figure attristée. Il gardait au logis la physionomie grave et solennelle du magistrat sur le siège. Quand les deux petites filles eurent dépassé l'âge des joujoux et des poupées, quand elles commencèrent à user de leur raison vers 12 ans, à l'époque où elles ne riaient déjà plus du vieux Schmuck, elles surprirent le secret des soucis qui souillonnaient le front du comte. Elles reconnurent, sous son masque sévère, les vestiges d'une bonne nature et d'un charmant caractère. Elles comprirent qu'il avait cédé la place à la religion dans son ménage, trompé dans ses espérances de mari, comme il avait été blessé dans les fibres les plus délicates de la paternité, l'amour des pères pour leurs filles. De semblables douleurs émeuvent singulièrement des jeunes filles sevrées de tendresse. Quelquefois, en faisant le tour du jardin entre elles, chaque bras passé autour de chaque petite taille, se mettant à leurs pas enfantins, le père les arrêtait dans un massif et les baisait l'une après l'autre au front. Ses yeux, sa bouche et sa physionomie exprimaient alors la plus profonde compassion. « Oh, vous n'êtes pas très heureuses, mes chères petites, » leur disait-il, « mais je vous marierai de bonne heure et je serai content en vous voyant quitter la maison. »« Papa, » disait Eugénie, « oh, nous sommes décidés à prendre pour mari le premier homme venu. »« Voilà !» s'écriait-il, le fruit amer d'un semblable système. On veut faire des saintes, on obtient des... Il n'achevait pas. Souvent, ces deux filles sentaient une bien vive tendresse dans les adieux de leur père ou dans ses regards, quand par hasard il dînait au logis. Ce père, si rarement vu, elle le plaignait, et l'on aime ce que l'on plaint. Cette sévère et religieuse éducation fut la cause des mariages de ces deux sœurs, soudées ensemble par le malheur, comme Rita Christina par la nature. Beaucoup d'hommes, poussés au mariage, préfèrent une fille prise au couvent et saturée de dévotion à une fille élevée dans les doctrines mondaines. Il n'y a pas de milieu. Un homme doit épouser une fille très instruite, qui a lu les annonces des journaux, les a commentées, qui a valsé et dansé le galop avec 1000 jeunes gens, qui est allée à tous les spectacles, qui a dévoré des romans, à qui un maître de danse a brisé les genoux en les appuyant sur les siens, qui de religion ne se soucie guère et s'est faite à elle-même sa morale, ou une jeune fille ignorante et pure, comme étaient Marie Angélique et Marie Eugénie. Peut-être y a-t-il autant de dangers avec les unes qu'avec les autres. Cependant, l'immense majorité des gens qui n'ont pas l'âge d'Arnolphe aiment encore mieux une Agnès religieuse qu'une Célimène en herbe. Les deux Maries, petites et minces, avaient la même taille, le même pied, la même main. Eugénie, la plus jeune, était blonde comme sa mère, Angélique était brune comme le père. Mais toutes deux avaient le même teint, une peau de ce blanc nacré qui annonce la richesse et la pureté du sang, jaspé par des couleurs vivement détachées, sur un tissu nourri comme celui du jasmin, comme lui fin, lisse et tendre au toucher. Les yeux bleus d'Eugénie, les yeux bruns d'Angélique, avaient une expression de naïve insouciance, d'étonnement, non prémédité, bien rendue par la manière vague dont flottaient leurs prunelles sur le blanc fluide de l'œil. Elles étaient bien faites. Leurs épaules un peu maigres devaient se modeler plus tard. Leurs gorges, si longtemps voilées, étonnèrent le regard par leur perfection quand leurs maris les prièrent de se décolleter pour le bal. L'un et l'autre jouirent alors de cette charmante honte qui fit rougir d'abord à huis clos et pendant toute une soirée ces deux ignorantes créatures. Au moment où commence cette scène où l'aînée pleurait et se laissait consoler par sa cadette, leurs mains et leurs bras étaient devenus d'une blancheur de lait. Toutes deux, elles avaient nourri, l'une un garçon, l'autre une fille. Eugénie avait paru très espiègle à sa mère qui, pour elle, avait redoublé d'attention et de sévérité. Aux yeux de cette mère redoutée, Angélique, noble et fière, semblait avoir une âme pleine d'exaltation qui se garderait toute seule, tandis que la lutine Eugénie paraissait avoir besoin d'être contenue. Il est de charmantes créatures méconnues par le sort, à qui tout devrait réussir dans la vie, mais qui vivent et meurent malheureuses, tourmentées par le mauvais génie, victimes de circonstances imprévues. Ainsi, l'innocente, la gaie Eugénie, était tombée sous le malicieux despotisme d'un parvenu au sortir de la prison maternelle. Angélique, disposée aux grandes luttes du sentiment, avait été jetée dans les plus hautes sphères de la société parisienne, la bride sur le cou. Madame de Vandenesse, qui succombait évidemment sous le poids de peines trop lourdes pour son âme, encore naïve après 6 ans de mariage, était étendue, les jambes à demi fléchies, le corps plié, la tête comme égarée sur le dos de la causeuse. Accourue chez sa sœur après une courte apparition aux Italiens, elle avait encore dans ses nattes quelques fleurs, mais d'autres gisaient éparses sur le tapis avec ses gants, sa pelisse de soie garnie de fourrure, son manchon et son capuchon. Des larmes brillantes mêlées à ses perles sur sa blanche poitrine, ses yeux mouillés annonçaient d'étranges confidences. Au milieu de ce luxe, n'était-ce pas horrible? Napoléon l'a dit, « Rien ici-bas n'est volé, tout se paie. » Elle ne se sentait pas le courage de parler. « Pauvre chérie, dit madame du Tillet, Quelle fausse idée as-tu de mon mariage, pour avoir imaginé de me demander du secours ? » En entendant cette phrase arrachée au fond du cœur de sa sœur par la violence de l'orage qu'elle y avait versé, de même que la fonte des neiges soulève les pierres les mieux enfoncées au lit des torrents, la comtesse regarda d'un air stupide la femme du banquier. Le feu de la terreur sécha ses larmes et ses yeux demeurèrent fixes. « Es-tu donc aussi dans un abîme, mon ange ? » dit-elle à voix basse. « Mes mots ne calmeront pas tes douleurs. Oh, dis-les, cher enfant, je ne suis pas encore assez égoïste pour ne pas t'écouter. Nous souffrons donc encore ensemble, comme dans notre jeunesse ? » « Mais nous souffrons séparés, » répondit mélancoliquement la femme du banquier. « Nous vivons dans deux sociétés ennemies. Je vais aux Tuileries quand tu n'y vas plus. Nos maris appartiennent à deux partis contraires. Je suis la femme d'un banquier ambitieux, d'un mauvais homme, mon cher trésor. Toi, tu es celle d'un bon être, noble, généreux. » Oh, pas de reproche, dit la comtesse. Pour m'en faire, une femme devrait avoir subi les ennuis d'une vie terne et décolorée, en être sortie pour entrer dans le paradis de l'amour. Il lui faudrait connaître le bonheur qu'on éprouve à sentir toute sa vie chez un autre, à épouser les émotions infinies d'une âme de poète, à vivre doublement. Aller, venir avec lui dans ses courses, à travers les espaces, dans le monde de l'ambition, souffrir de ses chagrins, monter sur les ailes de ses immenses plaisirs, se déployer sur un vaste théâtre, et tout cela, pendant que l'on est calme, froide, sereine, devant un monde observateur. Oh oui, ma chère, on doit soutenir souvent tout un océan dans son cœur, en se trouvant comme nous sommes ici, devant le feu, chez soi, sur une causeuse. Quel bonheur, cependant, que d'avoir à toute minute un intérêt énorme qui multiplie les fibres du cœur et les étend, de n'être froid à rien, de trouver sa vie attachée à une promenade où l'on verra dans la foule un œil scintillant qui fait pâlir le soleil, d'être ému par un retard, d'avoir envie de tuer un importun qui vole un de ces rares moments où le bonheur palpite dans les plus petites veines. Quelle ivresse que de vivre enfin ! Ah, cher, vivre quand tant de femmes demandent à genoux des émotions qui les fuient. Songe, mon enfant, que pour ces poèmes il n'est qu'un temps la jeunesse. Dans quelques années vient l'hiver, le froid. Ah, si tu possédais ces vivantes richesses du cœur et que tu fusses menacée de les perdre. » Madame du Tillet, effrayée, s'était voilé la figure avec ses mains en entendant cette horrible antienne. « Je n'ai pas eu la pensée de te faire la moindre reproche, ma bien-aimée, dit-elle enfin en voyant le visage de sa sœur baigné de larmes chaudes. Tu viens de jeter dans mon âme en un moment plus de brandon que n'en ont éteint mes larmes. Oui, la vie que je mène légitimerait dans mon cœur un amour comme celui que tu viens de me peindre. Laisse-moi croire que si nous nous étions vus plus souvent, nous ne serions pas là où nous sommes. Si tu avais vu, su mes souffrances, tu aurais apprécié ton bonheur, tu l'aurais peut-être enhardi à la résistance et je serais heureuse. Ton malheur est un accident auquel un hasard obviera, tandis que mon malheur est de tous les moments. Pour mon mari, je suis le porte-manteau de son luxe, l'enseigne de ses ambitions, une de ses vaniteuses satisfactions. Il n'a pour moi ni affection vraie, ni confiance. Ferdinand est sec et poli comme ce marbre, dit-elle en frappant le manteau de la cheminée. Il se défie de moi. Tout ce que je demanderais pour moi-même est refusé d'avance. Mais quant à ce qui le flatte et annonce sa fortune, je n'ai pas même à désirer. Il décore mes appartements, il dépense des sommes exorbitantes pour ma table. Mes gens, mes loges au théâtre, tout ce qui est extérieur est du dernier goût. Sa vanité n'épargne rien. Il mettra des dentelles aux langues de ses enfants, mais il n'entendra pas leurs cris, ne devinera pas leurs besoins. Me comprends-tu? Je suis couverte de diamants quand je vais à la cour. À la ville, je porte les bagatelles les plus riches, mais je ne dispose pas d'un liard. Madame du Tillet, qui peut-être excite des jalousies, qui paraît nager dans l'or, n'a pas 100 francs à elle. Si le père ne se soucie pas de ses enfants, il se soucie bien moins de leur mère. Oh, il m'a fait bien rudement sentir qu'il m'a payé et que ma fortune personnelle, dont je ne dispose point, lui a été arrachée. Si je n'avais qu'à me rendre maîtresse de lui, peut-être le séduirais-je, mais je subis une influence étrangère, celle d'une femme de 50 ans passés qui a des prétentions et qui le domine, la veuve d'un notaire. Je le sens, je ne serai libre qu'à sa mort. Ici, ma vie est réglée comme celle d'une reine. On sonne mon déjeuner et mon dîner comme à ton château. Je sors infailliblement à une certaine heure pour aller au bois. Je suis toujours accompagné de 2 domestiques en grande tenue et dois être revenu à la même heure. Au lieu de donner des ordres, j'en reçois. Au bal, au théâtre, un valet vient me dire « La voiture de madame est avancée. » Et je dois partir, souvent au milieu de mon plaisir. Ferdinand se fâcherait si je n'obéissais pas à l'étiquette créée pour sa femme, et il me fait peur. Au milieu de cette opulence maudite, je conçois des regrets et trouve notre mère une bonne mère. Elle nous laissait les nuits, et je pouvais causer avec toi. Enfin, je vivais près d'une créature qui m'aimait et souffrait avec moi, tandis qu'ici, dans cette somptueuse maison, je suis au milieu d'un désert. À ce terrible aveu, la comtesse saisit à son tour la main de sa sœur et la baisa en pleurant. « Comment puis-je t'aider ? » dit Eugénie à voix basse à Angélique. « S'il nous surprenait, il entrerait en défiance. » Il voudrait savoir ce que tu m'as dit depuis 1 heure. Il faudrait lui mentir. Chose difficile, avec un homme fin et traître. Il me tendrait des pièges. Mais laissons mes malheurs et pensons à toi. Tes 40 000 francs, ma chère, ne seraient rien pour Ferdinand, qui remue des millions avec un autre gros banquier, le baron de Nucingen. Quelquefois j'assiste à des dîners où ils disent des choses à faire frémir. Du Tillet connaît ma discrétion, et l'on parle devant moi sans se gêner. On est sûr de mon silence. Eh bien, les assassinats sur la grande route me semblent des actes de charité comparés à certaines combinaisons financières. Nucingen et lui se soucient de ruiner les gens comme je me soucie de leur profusion. Souvent, je reçois de pauvres dupes de qui j'ai entendu faire le compte la veille et qui se lancent dans des affaires où ils doivent laisser leur fortune. Il me prend envie, comme à Léonard dans la caverne des brigands, de leur dire « Mais prenez garde !» Mais que deviendrai-je ? Je me tais. Ce somptueux hôtel est à coupe-gorge. Et du Tillet et du Singen jettent les billets de 1 000 francs par poignée pour leurs caprices. Ferdinand achète au Tillet l'emplacement de l'ancien château pour le rebâtir. Il veut y joindre une forêt et de magnifiques domaines. Il prétend que son fils sera comte et qu'à la 3e génération il sera noble. Nucingen, là de son hôtel de la rue Saint-Lazare, construit un palais. Sa femme est une de mes amies. Ah, s'écria-t-elle, elle peut nous être utile. Elle est hardie avec son mari. Elle a à la disposition de sa fortune. Elle te sauvera. Chère Minette, j'en ai plus que quelques heures. Allons-y ce soir, à l'instant, dit madame de Vandenesse en se jetant dans les bras de madame du Tillet et y fondant en larmes. Et puis-je sortir à 11 heures du soir? J'ai ma voiture. Que complotez-vous donc là? Dit du Tillet en poussant la porte du boudoir. Il montrait aux deux sœurs un visage anodin, éclairé par un air faussement aimable. Les tapis avaient assourdi ses pas, et la préoccupation des deux femmes les avait empêchées d'entendre le bruit que fit la voiture de du Tillet en entrant. La comtesse, chez qui l'usage du monde et la liberté que lui laissait Félix avaient développé l'esprit et la finesse, encore comprimés chez sa sœur par le despotisme marital qui continuait celui de leur mère, aperçut chez Eugénie une terreur près de se trahir et la sauva par une réponse franche. Je croyais ma sœur plus riche qu'elle ne l'est, répondit la comtesse en regardant son beau-frère. Les femmes sont parfois dans des embarras qu'elles ne veulent pas dire à leur mari, comme Joséphine avec Napoléon. Et je venais lui demander un service. Elle peut vous le rendre facilement, ma sœur. Eugénie est très riche, répondit du Tillet avec une mielleuse aigreur. Elle ne l'est que pour vous, mon frère, répliqua la comtesse en souriant avec amertume. Que vous faut-il? Dit du Tillet, qui n'était pas fâché d'enlacer sa belle-sœur. Nigaud, ne vous ai-je pas dit que nous ne voulons pas nous commettre avec nos maris? Répondit sagement madame de Vandenesse, en comprenant qu'elle se mettait à la merci de l'homme dont le portrait venait heureusement de lui être tracé par sa sœur. « Je viendrai chercher Eugénie demain. »« Ah, demain ?» répondit froidement le banquier. « Non, non, madame du Tillet dîne demain chez un futur pair de France, le baron de Nucingen, qui me laisse sa place à la Chambre des députés. »« Ne lui permettrez-vous pas d'accepter ma loge à l'opéra ?» dit la comtesse, sans même échanger un regard avec sa sœur, tant elle craignait de lui voir trahir leur secret. « Elle a la sienne, ma sœur, » dit du Tillet piqué. « Eh bien, je l'y verrai, » répliqua la comtesse. « Ce sera la première fois que vous nous ferez cet honneur, » dit du Tillet. La comtesse sentit le reproche et se mit à rire. « Soyez tranquille, » « On ne vous fera rien payer cette fois-ci, » dit-elle. « Adieu, ma chérie. » « L'impertinente !» s'écria du Tillet en ramassant les fleurs tombées de la coiffure de la comtesse. « Vous devriez, » dit-il à sa femme, « étudier madame de Vandenesse. Je voudrais vous voir dans le monde impertinente comme votre sœur vient de l'être ici. Vous avez un air bourgeois et niais qui me désole. » Eugénie leva les yeux au ciel pour toute réponse. « Ah, ça, madame, qu'avez-vous donc fait, toutes deux ici ?» dit le banquier après une pause en lui montrant les fleurs. « Que se passe-t-il pour que votre sœur vienne demain dans votre loge ?» La pauvre ilote se rejeta sur une envie de dormir et sortit pour se faire déshabiller en craignant un interrogatoire. Du Tillet prit alors sa femme par le bras, la ramena devant lui sous le feu des bougies qui flambaient dans les bras de vermeil, entre deux délicieux bouquets de fleurs nouées, et il plongea son regard clair dans les yeux de sa femme. « Votre sœur est venue pour emprunter 40 000 francs que doit un homme à qui elle s'intéresse et qui, dans 3 jours, sera coffré comme une chose précieuse rue de Clichy, dit-il froidement. La pauvre femme fut saisie par un tremblement nerveux qu'elle réprima. Ah, oh, vous m'avez effrayé, dit-elle. Mais ma sœur est trop bien élevée. Elle aime trop son mari pour s'intéresser à ce point à un homme. Au contraire, répondit-il sèchement, les filles élevées comme vous l'avez été dans la contrainte et les pratiques religieuses ont soif de la liberté, désirent le bonheur, et le bonheur dont elles jouissent n'est jamais aussi grand ni aussi beau que celui qu'elles ont rêvé. De pareilles filles font de mauvaises femmes. Parlez pour moi, dit la pauvre génie avec un ton de raillerie amère, mais respectez ma sœur. La comtesse de Vandenesse est trop heureuse. Son mari la laisse trop libre pour qu'elle ne lui soit pas attachée. D'ailleurs, si votre supposition était vraie, elle ne me l'aurait pas dit. Cela est, dit Du Tillet. Je vous défends de faire quoi que ce soit dans cette affaire. Il est dans mes intérêts que cet homme aille en prison. Tenez-vous le pour dit. Madame Du Tillet sortit. Elle me désobéira sans doute et je pourrai savoir tout ce qu'elles feront en les surveillant, se dit Du Tillet resté seul dans le boudoir. Ces pauvres sottes veulent lutter avec nous. Il haussa les épaules et rejoignit sa femme ou, pour être vrai, son esclave. La confidence faite à Madame Du Tillet par Madame Félix de Vandenesse tenait à tant de points de son histoire depuis 6 ans qu'elle serait inintelligible sans le récit succinct des principaux événements de sa vie. Parmi les hommes remarquables qui durent leur destinée à la Restauration et que, malheureusement pour elle, elle mit avec Martignac en dehors des secrets du gouvernement, on comptait Félix de Vandenesse, déporté comme plusieurs autres à la Chambre des Pairs au dernier jour de Charles X. Cette disgrâce, quoique momentanée à ses yeux, le fit songer au mariage vers lequel il fut conduit, comme beaucoup d'hommes le sont, par une sorte de dégoût pour les aventures galantes, ces folles fleurs de la jeunesse. Il est à un moment suprême où la vie sociale apparaît dans sa gravité. Félix de Vandenesse avait été tour à tour heureux et malheureux, plus souvent malheureux qu'heureux, comme les hommes qui, dès leur début dans le monde, ont rencontré l'amour sous sa plus belle forme. Ces privilégiés deviennent difficiles. Puis, après avoir expérimenté la vie et comparé les caractères, ils arrivent à se contenter d'un à peu près et se réfugient dans une indulgence absolue. On ne les trompe point car ils ne se détrompent plus, mais ils mettent de la grâce à leur résignation. En s'attendant à tout, ils souffrent moins. Cependant, Félix pouvait encore passer pour un des plus jolis et des plus agréables hommes de Paris. Il avait été surtout recommandé auprès des femmes par une des plus illustres, nobles créatures de ce siècle, morte, disait-on, de douleur et d'amour pour lui. Mais il avait été formé spécialement par la belle Lady Dudley. Aux yeux de beaucoup de Parisiennes, Félix, espèce de héros de roman, avait dû plusieurs conquêtes à tout le mal qu'on disait de lui. Madame de Manerville avait clos la carrière de ses aventures. Sans être un don juan, il remportait du monde amoureux le désenchantement qu'il remportait du monde politique. Cet idéal de la femme et de la passion, dont, pour son malheur, le type avait éclairé et dominé sa jeunesse, il désespérait de jamais pouvoir le rencontrer. Vers 30 ans, le comte Félix résolut d'en finir avec les ennuis de ses félicités par un mariage. Sur ce point, il était fixé. Il voulait une jeune fille, élevé dans les données les plus sévères du catholicisme. Il lui suffit d'apprendre comment la comtesse de Granville tenait ses filles pour rechercher la main de l'aîné. Il avait lui aussi subi le despotisme d'une mère. Il se souvenait encore assez de sa cruelle jeunesse pour reconnaître à travers les dissimulations de la pudeur féminine en quel état le jour aurait mis le cœur d'une jeune fille. Si ce cœur était aigri, chagrin révolté, s'il était demeuré paisible, aimable, prêt à s'ouvrir aux beaux sentiments. La tyrannie produit deux effets contraires, dont les symboles existent dans deux grandes figures de l'esclavage antique, Épictète et Spartacus. La haine et ses sentiments mauvais, la résignation et ses tendresses chrétiennes. Le comte de Vandenesse se reconnut dans Marie-Angélique de Granville, en prenant pour femme une jeune fille naïve, innocente et pure. Il avait résolu d'avance, en jeune vieillard qu'il était, de mêler le sentiment paternel au sentiment conjugal. Il se sentait le cœur desséché par le monde, par la politique, et savait qu'en échange d'une vie adolescente, il allait donner les restes d'une vie usée. Auprès des fleurs du printemps, il mettrait les glaces de l'hiver, l'expérience chenue auprès de la pimpante de l'insouciance, imprudence. Après avoir ainsi jugé sainement sa position, il se cantonna dans ses quartiers conjugaux avec d'amples provisions. L'indulgence et la confiance furent les deux ancres sur lesquelles il s'amarra. Les mères de famille devraient rechercher de pareils hommes pour leurs filles. L'esprit est protecteur comme la divinité. Le désenchantement est perspicace comme un chirurgien, l'expérience est prévoyante comme une mère. Ces trois sentiments sont les vertus théologales du mariage. Les recherches, les délices que ces habitudes d'homme à bonne fortune et d'homme élégant avaient apprises à Félix de Vandenesse, les enseignements de la haute politique, les observations de sa vie tout à tout occupée, pensive, littéraire, toutes ses forces furent employées à rendre sa femme heureuse, et il y appliqua son esprit. Au sortir du purgatoire maternel, Marie-Angélique monta tout à coup au paradis conjugal que lui avait élevé Félix, rue du Rocher, dans un hôtel où les moindres choses avaient un parfum d'aristocratie, mais où le vernis de la bonne compagnie ne gênait pas cet harmonieux laisser-aller que souhaitent les cœurs aimants et jeunes. Marie-Angélique savoura d'abord les jouissances de la vie matérielle dans leur entier. Son mari se fit pendant 2 ans son intendant. Félix expliqua lentement et avec beaucoup d'art à sa femme les choses de la vie, l'initia par degrés au mystère de la haute société, lui apprit les généalogies de toutes les maisons nobles, lui enseigna le monde, la guida dans l'art de la toilette et de la conversation, l'amena de théâtre en théâtre et lui fit faire des cours de littérature et d'histoire. Il acheva cette éducation avec un soin d'amant, de père, de maître et de mari. Mais avec une sobriété bien entendue, il ménageait les jouissances et les leçons sans détruire les idées religieuses. Enfin, il s'acquitta de son entreprise en grand maître. Au bout de 4 années, il eut le bonheur d'avoir formé dans la comtesse de Vandenesse une des femmes les plus aimables et les plus remarquables du temps actuel. Marie-Angélique éprouva précisément pour Félix le sentiment que Félix souhaitait de lui inspirer. Une amitié vraie, une reconnaissance bien sentie, un amour fraternel qui se mélangeait à propos de tendresse noble et digne, comme elle doit être entre mari et femme. Elle était mère et bonne mère. Félix s'attachait donc sa femme par tous les liens possibles, sans avoir l'air de la garrotter, comptant pour être heureux, sans nuages, sur les attraits de l'habitude. Il n'y a que les hommes rompus au manège de la vie et qui ont parcouru le cercle des désillusionnements politiques et amoureux pour avoir cette science et se conduire ainsi. Félix trouvait d'ailleurs dans son œuvre les plaisirs que rencontrent dans leur création les peintres, les écrivains, les architectes qui élèvent des monuments. Il jouissait doublement en s'occupant de l'œuvre et en voyant le succès. en admirant sa femme instruite et naïve, spirituelle et naturelle, aimable et chaste jeune fille et mère, parfaitement libre et enchaînée. L'histoire des bons ménages est comme celle des peuples heureux. Elle s'écrit en deux lignes et n'a rien de littéraire. Aussi, comme le bonheur ne s'explique que par lui-même, ces 4 années ne peuvent-elles rien fournir qui ne soit tendre comme le gris de fin des éternels amours, fade comme la manne et amusant comme le roman de l'Astrée. En 1833, l'édifice du bonheur par Félix fut près de crouler, miné dans ses bases sans qu'il s'en doutât. Le cœur d'une femme de 25 ans n'est pas plus celui de la jeune fille de 18 que celui de la femme de 40 n'est celui de la femme de 30 ans. Il y a 4 âges dans la vie des femmes. Chaque âge crée une nouvelle femme. Vandenesse connaissait sans doute les lois de ces transformations dues à nos mœurs modernes, mais il les oublia pour son propre compte, comme le plus fort grammairien peut oublier les règles en composant un livre, comme sur le champ de bataille, au milieu du feu, pris dans les accidents d'un site, le plus grand général oublie une règle absolue de l'art militaire. L'homme qui peut empreindre perpétuellement la pensée dans le fait est un homme de génie, mais l'homme qui a le plus de génie ne le déploie pas à tous les instants. Il ressemblerait trop à Dieu. Après 4 ans de cette vie sans un choc d'âme, sans une parole qui produisit la moindre discordance dans ce suave concert de sentiments, en se sentant parfaitement développé comme une belle plante dans un bon sol, sous les caresses d'un beau soleil qui rayonnait au milieu d'un éther constamment azuré, la comtesse eut comme un retour sur elle-même. Cette crise de sa vie, l'objet de cette scène serait incompréhensible sans des explications qui peut-être atténueront aux yeux des femmes les torts de cette jeune comtesse, aussi heureuse femme qu'heureuse mère et qui doit, au premier abord, paraître sans excuse. La vie résulte du jeu de 2 principes opposés. Quand l'un manque, l'être souffre. Vandenesse, en satisfaisant à tout, avait supprimé le désir, ce roi de la création qui emploie une somme énorme des forces morales. L'extrême chaleur, l'extrême malheur, le bonheur complet, tous les principes absolus trônent sur des espaces dénués de production. Ils veulent être seuls, ils étouffent tout ce qui n'est pas eux. Vandenesse n'était pas femme, et les femmes seules connaissent l'art de varier la félicité. De là procèdent leur coquetterie, leur refus, leur crainte, leur querelle, et les savantes, les spirituelles niaiseries par lesquelles elles mettent le lendemain en question ce qui n'offrait aucune difficulté la veille. Les hommes peuvent fatiguer de leur constance, les femmes jamais. Vandenesse était une nature trop complètement bonne pour tourmenter par parti pris une femme aimée. Il la jeta dans l'infini le plus bleu, le moins nuageux de l'amour. Le problème de la béatitude éternelle est un de ceux dont la solution n'est connue que de Dieu dans l'autre vie. Ici-bas, des poètes sublimes ont éternellement ennuyé leurs lecteurs en abordant la peinture du paradis. L'écueil de Dante fut aussi l'écueil de Vandenesse. Honneur au courage malheureux. Sa femme finit par trouver quelque monotonie dans un Éden si bien arrangé. Le parfait bonheur que la première femme éprouva dans le paradis terrestre lui donna les nausées que donna la longueur l'emploi des choses douces et fit souhaiter à la comtesse, comme à Rivarol lisant Florian, de rencontrer quelques loups dans la bergerie. Ceci de tout temps a semblé le sens du serpent emblématique auquel Ève s'adressa probablement par ennui. Cette morale paraîtra peut-être hasardée aux yeux des protestants qui prennent la Genèse plus au sérieux que ne la prennent les Juifs eux-mêmes. Mais la situation de Madame de Vandenesse peut s'expliquer sans figure biblique. Elle se sentait dans l'âme une force immense, sans emploi. Son bonheur ne la faisait pas souffrir. Il allait sans soin ni inquiétude. Elle ne tremblait point de le perdre. Il se produisait tous les matins, avec le même bleu, le même sourire, la même parole charmante. Ce lac pur n'était ridé par aucun souffle, pas même par le zéphyr. Elle aurait voulu voir moduler cette place. Son désir comportait je ne sais quoi d'enfantin qui devait la faire excuser. Mais la société n'est pas plus indulgente que ne le fut le Dieu de la Genèse. Devenue spirituelle, la comtesse comprenait admirablement combien ce sentiment devait être offensant et trouvait horrible de le confier à son cher petit mari. Dans sa simplicité, elle n'avait pas inventé d'autres mots d'amour, car on ne forge pas à froid la délicieuse langue d'exagération que l'amour apprend à ses victimes au milieu des flammes. Vandenesse, heureux de cette adorable réserve, maintenait par ses savants calculs sa femme dans les régions tempérées de l'amour conjugal. Ce mari modèle trouvait d'ailleurs indigne d'une âme noble les ressources du charlatanisme qui l'eussent grandi, qui lui eussent valu des récompenses de cœur. Il voulait plaire par lui-même et ne rien devoir aux artifices de la fortune. La comtesse Marie souriait en voyant au bois un équipage incomplet ou mal attelé. Ses yeux se reportaient alors complaisamment sur le sien dont les chevaux avaient une tenue anglaise, étaient libres dans leur harnais, chacun à sa distance. Félix ne descendait pas jusqu'à ramasser les bénéfices des peines qu'il se donnait. Sa femme trouvait son luxe et son bon goût naturel. Elle ne lui savait aucun gré de ce qu'elle n'éprouvait aucune souffrance d'amour-propre. Il en était de tout ainsi. La bonté n'est pas sans écueil. On l'attribue au caractère. On veut rarement y reconnaître les efforts secrets d'une belle âme, tandis qu'on récompense les gens méchants du mal qu'ils ne font pas. Vers cette époque, Madame Félix de Vandenesse était arrivée à un degré d'instruction mondaine qui lui permit de quitter le rôle assez insignifiant de comparse timide, observatrice, écouteuse, que joua, dit-on pendant quelque temps, Giulia Grisi dans les chœurs au théâtre de la Scala. La jeune comtesse se sentait capable d'aborder l'emploi de prima donna et elle s'y hasarda plusieurs fois. Au grand contentement de Félix, elle se mêla aux conversations. D'ingénieuses reparties et de fines observations semées dans son esprit par son commerce avec son mari la firent remarquer et le succès l'enhardit. Vandenesse, à qui on avait accordé que sa femme était jolie, fut enchantée quand elle parut spirituelle. Au retour du bal, du concert, du raout où Marie avait brillé, quand elle quittait ses atours, elle prenait un petit air joyeux et délibéré pour dire à Félix « Vous étiez content de moi ce soir ?» La comtesse excita quelques jalousies, entre autres celle de la sœur de son mari, la marquise de Listomère, qui jusqu'alors l'avait patronnée en croyant protéger une ombre destinée à la faire ressortir. Une comtesse du nom de Marie, belle, spirituelle et vertueuse, musicienne et peu coquette, quelle proie pour le monde! Félix de Vandenesse comptait dans la société plusieurs femmes avec lesquelles il avait rompu ou qui avaient rompu avec lui, mais qui ne furent pas indifférentes à son mariage. Quand ces femmes virent dans Madame de Vandenesse une petite femme à main rouge, assez embarrassée d'elle, parlant peu, n'ayant pas l'air de penser beaucoup, elles se crurent suffisamment vengées. Les désastres de juillet 1830 vinrent. La société fut dissoute pendant 2 ans. Les gens riches allèrent, durant la tourmente, dans leurs terres ou voyagèrent en Europe, et les salons ne s'ouvrirent guère qu'en 1833. Le faubourg Saint-Germain bouda, mais il considéra quelques maisons, celles entre autres de l'ambassadeur d'Autriche, comme des terrains neutres. La société légitimiste et la société nouvelle s'y rencontrèrent, représentées par leurs sommités les plus élégantes. Attachés par 1000 liens de cœur et de reconnaissance à la famille exilée, mais fort de ses convictions, Vandenesse ne se crut pas obligé d'imiter les liaises exagérations de son parti. Dans le danger, il avait fait son devoir, au péril de ses jours, en traversant les flots populaires pour proposer des transactions. Il mena donc sa femme dans le monde où sa fidélité ne pouvait jamais être compromise. Les anciennes amies de Vandenesse retrouvèrent difficilement la nouvelle mariée dans l'élégante, la spirituelle, la douce comtesse qui se produisit elle-même avec les manières les plus exquises de l'aristocratie féminine. Mesdames d'Espoir, de Manerville, Lady Dudley, quelques autres moins connues, sentirent au fond de leur cœur des serpents se réveiller. Elles entendirent les sifflements flûtés de l'orgueil en colère. Elles furent jalouses du bonheur de Félix. Elles auraient volontiers donné leurs plus jolies pantoufles pour qu'il lui arrivât malheur. Au lieu d'être hostiles à la comtesse, ces bonnes mauvaises femmes l'entourèrent, lui témoignèrent une excessive amitié et la vantèrent aux hommes. Suffisamment édifié sur leurs intentions, Félix surveilla leur rapport avec Marie en lui disant de se défier d'elle. Toutes devinèrent les inquiétudes que leur commerce causait au comte. Elles ne lui pardonnèrent point sa défiance et redoublèrent de soins et de prévenances pour leur rivale, à laquelle elles firent un succès énorme au grand déplaisir de la marquise de Listomère, qui n'y comprenait rien. On citait la comtesse Félix de Vandenesse comme la plus charmante, la plus spirituelle femme de Paris. L'autre belle-sœur de Marie la marquise, Charles de Vandenesse, éprouvait 1000 désappointements à cause de la confusion que le même nom produisait parfois et des comparaisons qu'il occasionnait. Quoique la marquise fût aussi très belle femme et très spirituelle, ses rivales lui opposaient d'autant mieux sa belle-sœur que la comtesse était de 12 ans moins âgée. Ces femmes savaient combien d'aigreur le succès de la comtesse devait mettre dans son commerce avec ses deux belles-sœurs, qui devinrent froides et désobligeantes pour la triomphante Marie-Angélique. Ce fut de dangereuses parentes, d'intimes ennemies. Chacun sait que la littérature se défendait alors contre l'insouciance générale, engendrée par le drame politique en produisant des œuvres plus ou moins byroniennes, où il n'était question que des délits conjugaux. En ce temps, les infractions au contrat de mariage défrayaient les revues, les livres et le théâtre. Cet éternel sujet fut plus que jamais à la mode. L'amant, ce cauchemar des maris, était partout, excepté peut-être dans les ménages, où par cette bourgeoise époque, il donnait moins qu'en aucun temps. Est-ce quand tout le monde court à ses fenêtres, crie « à la garde », éclaire les rues, que les voleurs s'y promènent? Si, durant ces années fertiles en agitation urbaine, politique et morale, il y eut des catastrophes matrimoniales, elles constituèrent des exceptions qui ne furent pas autant remarquées que sous la Restauration. Néanmoins, les femmes causaient beaucoup entre elles de ce qui occupait alors les deux formes de la poésie, le livre et le théâtre. Il était souvent question de l'amant, cet être si rare et si souhaité. Les aventures connues donnaient matière à des discussions, et ces discussions étaient comme toujours soutenues par des femmes irréprochables. Un fait digne de remarque est l'éloignement que manifestent pour ces sortes de conversations les femmes qui jouissent d'un bonheur illégal. Elles gardent dans le monde une contenance prude, réservée et presque timide. Elles ont l'air de demander le silence à chacun ou pardon de leur plaisir à tout le monde. Quand au contraire, une femme se plaît à entendre parler de catastrophes, se laisse expliquer les voluptés qui justifient les coupables, croyez qu'elle est dans le carrefour de l'indécision et ne sait quel chemin prendre. Pendant cet hiver, la comtesse de Vandenesse entendit mugir à ses oreilles la grande voix du monde, le vent des orages siffla autour d'elle. Ses prétendus amis, qui dominaient leur réputation de toute la hauteur de leur nom et de leur position, lui dessinèrent à plusieurs reprises la séduisante figure de l'amant et lui jetèrent dans l'âme des paroles ardentes sur l'amour, le mot de l'énigme que la vie offre aux femmes, la grande passion, suivant Madame de Staël qui prêcha l'exemple. Quand la comtesse demandait naïvement, en petit comité, quelle différence il y avait entre un amant et un mari, jamais une de ces femmes qui souhaitaient quelque malheur à Vandenesse ne faillait à lui répondre de manière à piquer sa curiosité, à solliciter son imagination, à frapper son cœur, à intéresser son âme. « On vivote avec son mari, ma chère. On ne vit qu'avec son amant, lui disait sa belle-sœur, la marquise de Vandenesse. Le mariage, mon enfant, est notre purgatoire, l'amour est le paradis, disait Lady Dudley. On ne la croyait pas, s'écriait la duchesse de Grandlieu, c'est l'enfer. Non, c'est un enfer où l'on aime, faisait observer la marquise de Rocheguide. On a souvent plus de plaisir dans la souffrance que dans le bonheur, voyez les martyrs. Avec un mari, petite nièce, nous vivons pour ainsi dire de notre vie. Mais aimer, c'est vivre de la vie d'un autre, lui disait la marquise d'Espard. Un amant, c'est le fruit défendu, mot qui pour moi résume tout, disait en riant la jolie moine de Saint-Hérème. Quand elle n'allait pas à des raouts diplomatiques, ou au bal chez quelques riches étrangers comme Lady Dudley ou la princesse Galathion, la comtesse allait presque tous les soirs dans le monde, après les Italiens ou l'opéra, soit chez la marquise d'Espard, soit chez Madame de Listomère, Mademoiselle des Touches, la comtesse de Montcornet, ou la vicomtesse de Grandlieu, les seules maisons aristocratiques ouvertes et jamais elle n'en sortait sans que de mauvaises graines n'eussent été semées dans son cœur. On lui parlait de compléter sa vie, un mot à la mode dans ce temps-là, d'être comprise, autre mot auquel les femmes donnent d'étranges significations. Elle revenait chez elle inquiète, émue, curieuse, pensive. Elle trouvait je ne sais quoi de moins dans sa vie, mais elle n'allait pas jusqu'à la voir déserte. La société la plus amusante, mais la plus mêlée, des salons où allait Madame Félix de Vandenesse, se trouvait chez la comtesse de Montcornet, charmante petite femme qui recevait les artistes illustres, les sommités de la finance, les écrivains distingués, mais après les avoir soumis à un si sévère examen que les plus difficiles, en fait de bonne compagnie, n'avaient pas à craindre d'y rencontrer qui que ce soit de la société secondaire. Les plus grandes prétentions y étaient en sûreté. Pendant l'hiver où la société s'était ralliée, quelques salons, au nombre desquels étaient ceux de Mesdames d'Espard et de Listomère, de Mademoiselle des Touches et de la Duchesse de Grandlieu, avaient recruté parmi les célébrités nouvelles de l'art, de la science, de la littérature et de la politique. La société ne perd jamais ses droits, elle veut toujours être amusée. Un concert donné par la comtesse vers la fin de l'hiver apparut chez elle une des illustrations contemporaines de la littérature et de la politique, Raoul Nathan, présenté par un des écrivains les plus spirituels mais les plus paresseux de l'époque, Émile Blondet, autre homme célèbre, mais à huis clos. Vanté par les journalistes, mais inconnu au-delà des barrières, Blondet le savait d'ailleurs, ne se faisait aucune illusion, et entre autres paroles de mépris, il avait dit que la gloire est un poison bon à prendre à petite dose. Depuis le moment où il s'était fait jour après avoir longtemps lutté, Raoul Nathan avait profité du subit engouement que manifestèrent pour la forme ces élégants sectaires du Moyen-Âge, si plaisamment nommés Jeune France. Il s'était donné les singularités d'un homme de génie en s'enrôlant parmi ses adorateurs de l'art, dont les intentions furent d'ailleurs excellentes, car rien de plus ridicule que le costume des Français au XIXe siècle. Il y avait du courage à le renouveler. Raoul, rendons-lui cette justice, offre dans sa personne je ne sais quoi de grand, de fantasque et d'extraordinaire qui veut un cadre. Ses ennemis ou ses amis, les uns valent les autres, conviennent que rien au monde ne concorde mieux avec son esprit que sa forme. Raoul Nathan serait peut-être plus singulier au naturel qu'il ne l'est avec ses accompagnements. Sa figure ravagée, détruite, lui donne l'air de s'être battue avec les anges ou les démons. Elle ressemble à celle que les peintres allemands attribuent au Christ mort. Il y paraît mille signes d'une lutte constante entre la faible nature humaine et les puissances d'en haut. Mais les rides creuses de ses joues, les redans de son crâne tortueux et sillonné, les salières qui marquent ses yeux et ses tempes n'indiquent rien de débile dans sa constitution. Ses membranes dures, ses os apparents ont une solidité remarquable, et quoique sa peau, tannée par des excès, s'y colle comme si des feux intérieurs l'avaient desséchée, elle n'en couvre pas moins une formidable charpente. Il est maigre et grand. Sa chevelure longue et toujours en désordre vise à l'effet. Ce Byron mal peigné, mal construit, a des jambes de héron, des genoux engorgés, une cambrure exagérée, des mains cordées de muscles, fermes comme les pattes d'un crabe, à doigts maigres et nerveux. Raoul a des yeux napoléoniens, des yeux bleus dont le regard traverse l'âme, un nez tourmenté, plein de finesse, une charmante bouche embellie par les dents les plus blanches que puisse souhaiter une femme. Il a du mouvement et du feu dans la tête et du génie sur ce front. Raoul appartient au petit nombre d'hommes qui vous frappent au passage, qui dans un salon forment aussitôt un point lumineux où vont tous les regards. Il se fait remarquer par son négligé, s'il est permis d'emprunter à Molière, le mot employé par Eliante pour peindre le mal propre sur soi. Ses vêtements semblent toujours avoir été tordus, fripés, recroquevillés, exprès pour s'harmoniser à sa physionomie. Il tient habituellement l'une de ses mains dans son gilet ouvert, dans une pose que le portrait de M. de Chateaubriand par Girodet rendu célèbre. Mais il la prend néanmoins pour lui ressembler. Il ne veut ressembler à personne que pour déflorer les plis réguliers de sa chemise. Sa cravate est en un moment roulée sous les convulsions de ses mouvements de tête qu'il a remarquablement brusques et vifs comme ceux des chevaux de race qui s'impatientent dans leur harnais et relèvent constamment la tête pour se débarrasser de leur mort ou de leur gourmette. Sa barbe longue et pointue n'est ni peignée, ni parfumée, ni brossée, ni lissée, comme le sont celles des élégants qui portent la barbe en éventail ou en pointe. Il la laisse comme elle est. Ses cheveux, mêlés entre le collet de son habit et sa cravate luxuriant sur les épaules, graissent les places qu'il caresse. Ses mains sèches et filandreuses ignorent les soins de la brosse à ongles et le luxe du citron. Plusieurs feuilletonistes prétendent que les eaux lustrales ne rafraîchissent pas souvent leur peau calcinée. enfin le terrible Raoul est grotesque. Ses mouvements sont saccadés, comme s'ils étaient produits par une mécanique imparfaite. Sa démarche froisse toute idée d'ordre par des zigzags enthousiastes, par des suspensions inattendues qui lui font heurter les bourgeois pacifiques sur les boulevards de Paris. Sa conversation, pleine d'humeur caustique, d'épigrammes âpres, imite l'allure de son corps. Elle quitte subitement le ton de la vengeance et devient suave, poétique, consolante, douce, hors de propos. Elle a des silences inexplicables, des soubresauts d'esprit qui fatiguent parfois. Il apporte dans le monde une gaucherie hardie, un dédain des conventions, un air de critique pour tout ce qu'on y respecte, qui le met mal avec les petits esprits comme avec ceux qui s'efforcent de conserver les doctrines de l'ancienne politesse. Mais c'est quelque chose d'original comme les créations chinoises et que les femmes ne haïssent pas. D'ailleurs, pour elles, il se montre souvent d'une amabilité recherchée. Il semble se complaire à faire oublier ses formes bizarres, à remporter sur les antipathies une victoire qui flatte sa vanité, son amour-propre ou son orgueil. « Pourquoi êtes-vous comme cela ?» lui dit un jour la marquise de Vandenesse. « Les perles ne sont-elles pas dans les écailles ?» répondit-il fastueusement. À un autre qui lui adressait la même question, il répondit « Si j'étais bien pour tout le monde, comment pourrais-je paraître mieux à une personne choisie entre toutes ?» Raoul Nathan porte dans sa vie intellectuelle le désordre qu'il prend pour enseigne. Son annonce n'est pas menteuse. Son talent ressemble à celui de ces pauvres filles qui se présentent dans les maisons bourgeoises pour tout faire. Il fut d'abord critique et grand critique, mais il trouva de la duperie à ce métier. Ses articles valaient des livres, disait-il. Les revenus du théâtre l'avaient séduit, mais incapable du travail lent et soutenu que veut la mise en scène, il avait été obligé de s'associer à un vaudeville, à du Bruel qui mettait en œuvre ses idées et les avait toujours réduites en petites pièces productives, pleines d'esprit, toujours faites pour des acteurs ou pour des actrices. À eux deux, ils avaient inventé Florine, une actrice à recette. Humilié de cette association semblable à celle des frères siamois, Nathan avait produit à lui seul, au Théâtre français, un grand drame, tombé avec tous les honneurs de la guerre, aux salves d'articles foudroyants. Dans sa jeunesse, il avait déjà tenté le grand, le noble Théâtre français, par une magnifique pièce romantique dans le genre de Pinto, à une époque où le classique régnait en maître. L'Odéon avait été si rudement agité pendant 3 soirées que la pièce fut défendue. Aux yeux de beaucoup de gens, cette seconde pièce passait comme la première pour un chef-d'œuvre et lui valait plus de réputation que toutes les pièces si productives faites avec ses collaborateurs, mais dans un monde peu écouté, celui des connaisseurs et des vrais gens de goût. Encore une chute semblable, lui dit Émile Blondet, et tu deviens immortel. Mais au lieu de marcher dans cette voie difficile, Nathan était retombé par nécessité dans la poudre et les mouches du vaudeville, 18e siècle, dans la pièce à costume et la réimpression scénique des livres à succès. Néanmoins, il passait pour un grand esprit qui n'avait pas donné son dernier mot. Il avait d'ailleurs abordé la haute littérature et publié 3 romans, sans compter ceux qu'il entretenait sous presse comme des poissons dans un vivier. L'un de ces 3 livres, le premier, comme chez plusieurs écrivains qui n'ont pu faire qu'un premier ouvrage, avait obtenu le plus brillant succès. Cet ouvrage, imprudemment mis alors en première ligne, cette œuvre d'artiste, il la faisait appeler à tout propos le plus beau livre de l'époque, l'unique roman du siècle. Il se plaignait d'ailleurs beaucoup des exigences de l'art. Il était un de ceux qui contribuèrent le plus à faire ranger toutes les œuvres, le tableau, la statue, le livre, l'édifice, sous la bannière unique de l'art. Il avait commencé par commettre un livre de poésie qui lui méritait une place dans la pléiade des poètes actuels, et parmi lesquels se trouvait un poème nébuleux, assez admiré. Tenu de produire, par son manque de fortune, il allait du théâtre à la presse et de la presse au théâtre, se dissipant, s'éparpillant et croyant toujours en sa veine. Sa gloire n'était donc pas inédite comme celle de plusieurs célébrités à l'agonie, soutenue par les titres d'ouvrages à faire, lesquels n'auront pas autant d'éditions qu'ils ont nécessité de marcher. Nathan ressemblait à un homme de génie, et s'il eût marché à l'échafaud, comme l'envie lui en prit, il aurait pu se frapper le front à la manière d'André de Chénier. Saisi d'une ambition politique en voyant l'irruption au pouvoir d'une douzaine d'auteurs, de professeurs, de métaphysiciens et d'historiens qui s'incrustèrent dans la machine pendant les tourmentes de 1830 à 1833, il regretta de ne pas avoir fait des articles politiques au lieu d'articles littéraires. Il se croyait supérieur à ces parvenus dont la fortune lui inspirait alors une dévorante jalousie. Il appartenait à ces esprits jaloux de tout, capables de tout, à qui l'on vole tous les succès, et qui vont se heurter à mille endroits lumineux sans se fixer à un seul, épuisant toujours la volonté du voisin. En ce moment, il allait du saint-simonisme au républicanisme, pour revenir peut-être au ministérialisme. Il guettait son os à ronger dans tous les coins et cherchait une place sûre d'où il pût aboyer à l'abri des coups et se rendre redoutable. Mais il avait la honte de ne pas se voir prendre au sérieux par l'illustre de Marsay, qui dirigeait alors le gouvernement et qui n'avait aucune considération pour les auteurs chez lesquels il ne trouvait pas ce que Richelieu nommait « l'esprit de suite » ou mieux, de la suite dans les idées. Ailleurs, tout ministère eût compté sur le dérangement continuel des affaires de Raoul. Tôt ou tard, la nécessité devait l'amener à subir des conditions au lieu d'en imposer. Le caractère réel et soigneusement caché de Raoul concorde à son caractère public. Il est comédien de bonne foi, personnel comme si l'État était lui, et très habile déclamateur. Nul ne sait mieux jouer les sentiments, se targuer de grandeur fausse, se parer de beauté morale, se respecter en parole et se poser comme un Alceste en agissant comme Philinte. Son égoïsme trotte à couvert de cette armure en carton peint et touche souvent au but caché qu'il se propose. La continuité du travail appliqué à la création de monuments, il l'ignore. Mais dans le paroxysme de rage que lui ont causé ses vanités blessées ou dans un moment de crise amené par le créancier, il saute le retard, s'il triomphe des plus difficiles escomptes de l'esprit. Puis, fatigué, surpris d'avoir créé quelque chose, il retombe dans le marasme des jouissances parisiennes. Le besoin se représente formidable. Il est sans force, il descend alors et se compromet. Mu par une fausse idée de sa grandeur et de son avenir, dont il prend mesure sur la haute fortune d'un de ses anciens camarades, un des rares talents ministériels mis en lumière par la Révolution de Juillet pour sortir d'embarras, il se permet alors, avec les personnes qu'il aime, des barbarismes de conscience, enterrés dans des mystères de la vie privée, mais dont personne ne parle ni ne se plaint. La banalité de son cœur, l'impudeur de sa poignée de main, qui sert tous les vices, tous les malheurs, toutes les trahisons, toutes les opinions, l'ont rendu inviolable comme un roi constitutionnel. Le péché véniel qui exciterait clameur de haraud sur un homme d'un grand caractère, de lui n'est rien. Un acte peu délicat est à peine quelque chose. Tout le monde s'excuse en l'excusant. Celui-même qui serait tenté de le mépriser lui tend la main, en ayant peur d'avoir besoin de lui. Il a tant d'amis qu'il souhaite des ennemis. Cette bonhomie apparente qui séduit les nouveaux venus et n'empêche aucune trahison, qui se permet et justifie tout, qui jette les hauts cris à une blessure et la pardonne, est un des caractères distinctifs du journaliste. Cette camaraderie, mot créé par un homme d'esprit, corrode les plus belles âmes, elle rouille leur fierté, tue le principe des grandes œuvres. En exigeant cette mollesse de conscience chez tout le monde, certaines gens se ménagent l'absolution de leur traîtrise, de leur changement de parti. Voilà comment la portion la plus éclairée d'une nation devient la moins estimable. Jugé du point de vue littéraire, il manque à Nathan le style et l'instruction. Comme la plupart des jeunes ambitions de la littérature, il dégorge aujourd'hui son instruction d'hier. Il n'a ni le temps ni la patience d'écrire, il n'a pas observé, mais il écoute. Incapable de construire un plan vigoureusement charpenté, peut-être se sauve-t-il par la fougue de son dessein. Il faisait de la passion, selon un mot de l'argot littéraire, parce qu'en fait, de passion, tout est vrai. Tandis que le génie a pour mission de chercher, à travers les hasards du vrai, ce qui doit sembler probable à tout le monde. Au lieu de réveiller des idées, ces héros sont des individualités agrandies qui n'excitent que des sympathies fugitives. Ils ne se relient pas aux grands intérêts de la vie et dès lors ne représentent rien. Mais il se soutient par la rapidité de son esprit, par ces bonheurs de rencontre que les joueurs de billard nomment des raccrocs. Il est le plus habile tireur au vol des idées qui s'abattent sur Paris, ou que Paris fait lever. Sa fécondité n'est pas à lui, mais à l'époque. Il vit sur la circonstance et, pour le dominer, il en outre la portée. Enfin, il n'est pas vrai. Sa phrase est menteuse. Il y a chez lui, comme le disait le comte Félix, du joueur de gobelet. Cette plume prend son encre dans le cabinet d'une actrice. On le sent. Nathan offre une image de la jeunesse littéraire d'aujourd'hui, de ses fausses grandeurs et de ses misères réelles. Il la représente avec ses beautés incorrectes et ses chutes profondes, sa vie à cascades bouillonnantes, à revers soudains, à triomphes inespérés. C'est bien l'enfant de ce siècle dévoré de jalousie, où mille rivalités à couvert sous des systèmes nourrissent à leur profit l'hydre de l'anarchie de tous les mécomptes, qui veut la fortune sans le travail, la gloire sans le talent et le succès sans peine. Mais qu'après bien des rébellions, bien des escarmouches, ses vices amènent à émarger le budget sous le bon plaisir du pouvoir. Quand tant de jeunes ambitions sont parties à pied, et se sont toutes donné rendez-vous au même point, il y a concurrence de volonté, misères inouïes, luttes acharnées. Dans cette bataille horrible, l'égoïsme le plus violent ou le plus adroit gagne la victoire. L'exemple est envié, justifié, malgré les criailleries, dirait Molière. On le suit. Quand, en sa qualité d'ennemi de la nouvelle dynastie, Raoul fut introduit dans le salon de Madame de Montcornet, ses apparentes grandeurs florissaient. Il était accepté comme le critique politique des De Marsay, des Rastignac, des La Roche-Hugon, arrivés au pouvoir. Victime de ses fatales hésitations, de sa répugnance pour l'action qui ne concernait que lui-même, Émile Blondel, l'introducteur de Nathan, continuait son métier de moqueur, ne prenait parti pour personne et tenait à tout le monde. Il était l'ami de Raoul, l'ami de Rastignac, l'ami de Montcornet. « Tu es un triangle politique !» lui disait en riant De Marsay quand il le rencontrait à l'opéra. « Cette forme géométrique n'appartient qu'à Dieu, qui n'a rien à faire. Mais les ambitions doivent aller en ligne, courbe, le chemin le plus court en politique. » Vu à distance, Raoul Nathan était un très beau météore. Le monde autorisait ses façons et sa tournure. Son républicanisme emprunté lui donnait momentanément cet âpreté janséniste que prennent les défenseurs de la cause populaire desquels ils se moquaient intérieurement, et qui n'est pas sans charme aux yeux des femmes. Les femmes aiment à faire des prodiges, à briser les rochers, à fondre les caractères qui paraissent être de bronze. La toilette du moral était donc alors chez Raoul en harmonie avec son vêtement. Il devait être et fut, pour l'Ève ennuyée de son paradis de la rue du Rocher, le serpent chatoyant, coloré, beau diseur, aux yeux magnétiques, aux mouvements harmonieux, qui perdit la première femme. Dès que la comtesse Marie aperçut Raoul, elle éprouva ce mouvement intérieur dont la violence cause une sorte d'effroi. Ce prétendu grand homme eut sur elle, par son regard, une influence physique qui rayonna jusque dans son cœur en la troublant. Ce trouble lui fit plaisir. Ce manteau de pourpre que la célébrité drapait pour un moment sur les épaules de Nathan éblouit cette femme ingénue. À l'heure du thé, Marie quitta la place où, parmi quelques femmes occupées à causer, elle s'était tue en voyant cet être extraordinaire. Ce silence avait été remarqué par ses fausses amies. La comtesse s'approcha du divan carré placé au milieu du salon où pérorait Raoul. Elle se tint debout, donnant le bras à Madame Octave de Camps, excellente femme, qui lui garda le secret sur les tremblements involontaires par lesquels se trahissaient ces violentes émotions. Quoique l'œil d'une femme éprise ou surprise laisse échapper d'incroyables douceurs, Raoul tirait en ce moment un véritable feu d'artifice. Il était trop au milieu de ces épigrammes qui partaient comme des fusées, de ces accusations enroulées et déroulées comme des soleils, des flamboyants portraits qu'il dessinait en traits de feu pour remarquer la naïve admiration d'une pauvre petite Ève cachée dans le groupe de femmes qui l'entouraient. Cette curiosité semblable à celle qui précipiterait Paris vers le jardin des plantes pour y voir une licorne, si l'on en trouvait une dans ces célèbres montagnes de la Lune, encore vierge des pas d'un Européen, enivre les esprits secondaires autant qu'elle attriste les âmes vraiment élevée. Mais elle enchantait Raoul. Il était donc trop à toutes les femmes pour être à une seule.